Les 19h15, dialogue entre Congolais, présenté par Alain Hirung.
Bonsoir. Exploitation commune du gaz du lac Kivu. La RDC traîne les pas lorsqu'il s'agit de l'exploitation commune des ressources partagées avec le Rwanda à travers le lac Kivu, constaté par les participants à l'atelier sur la surveillance et le développement des ressources en gaz du lac Kivu tenu récemment à Gisenyi au Rwanda. Quelles sont les raisons qui poussent la RDC à ne pas exploiter le gaz du lac Kivu et que faut-il pour qu'elle en tire réellement profit? Trois invités participent à cette émission. Simon Kazungu, député provincial et président du groupe parlementaire Force du Renouveau à l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Honorable Kazungu, bonsoir.
Oui, bonsoir, monsieur le journaliste.
François Zekouye, expert en environnement, il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Dario Tedesco, expert en risque naturel à l'Université de Naples en Italie. Il travaille avec l'UNOPS dans un projet sur l'analyse et prévention des risques naturels en RDC. Monsieur Tedesco, bonsoir.
Bonsoir.
Vos réactions, chers auditeurs et internautes, nous les avons déjà. Arnold Ombeni Mwongo de Bukavu sur Kivu. Pour que la RDC arrive à exploiter le gaz du lac Kivu, il faut une véritable volonté politique. Le Kivu a un sérieux problème d'énergie électrique. Aussi, nos dirigeants doivent tenir compte du danger que constitue la non-exploitation de ce gaz pour les populations riveraines. Mathieu Baweri de Goma en Nord Kivu. La nature nous a tout donné, mais malheureusement, nous ne savons pas exploiter ce don. Nos autorités doivent tout faire pour que cette exploitation puisse débuter. Sachez également que tous nos efforts pour avoir dans cette émission un délégué du ministère de l'Énergie se sont avérés vains. Bienvenue à tous dans votre émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
La RDC traîne les pas lorsqu'il s'agit de l'exploitation commune des ressources partagées avec le Rwanda à travers le lac Kivu, constaté par les participants à l'atelier sur la surveillance et le développement de ressources en gaz du lac Kivu. L'atelier qui s'est récemment tenu à Gisenyi au Rwanda a connu la participation des experts venus de deux pays. Le directeur général de l'Observatoire volcanologique de Goma, OVG, qui a pris part à ces assises, interpelle les autorités provinciales du Nord Kivu de s'approprier ce projet. Kasso Karoumé est au micro de Denise Loukesso.
Tant que cette histoire dépend de Kinshasa, rien ne sera fait. Il faudrait que l'autorité locale, au niveau de la région, qu'on s'approprie la question. Ça présentera un grand intérêt et le Congo peut facilement s'intégrer.
C'est à quel niveau que le Congo traîne encore les pas?
C'est au niveau politique et au niveau financier. Parce qu'il y a eu des accords qui ont été signés, mais la matérialisation n'y est pas. Et pour que, dans la présentation KP1, qui est la plateforme que tout le monde voit sur les lacs, ils ont déjà injecté sur les réseaux rwandais 11 millions de kilowattheures. Et nous, c'est zéro. Comme maintenant, on est en train de le faire à Kibouye, en mai 2012, ils vont exploiter 25 mégawatts. Mais le Congo n'y est pas. Et donc, il fallait déjà que le Congo commence aussi sa plateforme pour l'exploitation, soit se joint au Rwanda pour l'exploitation commune, et on partage, comme c'est une ressource partagée.
Honorable Simon Kazungu, quelles sont d'après vous les raisons qui poussent la RDC à ne pas exploiter le gaz du lac Kivu? On a suivi tout à l'heure Kato Karoumé, directeur général de l'Observatoire volcanologique de Goma, parler lui de l'absence de volonté politique et du manque des moyens.
Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. La première chose qu'il faut se dire, c'est que il y a deux sortes de gaz dans le lac Kivu. Il y a le gaz méthane et il y a le dioxyde de carbone, qu'on appelle le COD. Et ici, je crois que quand on parle d'exploitation du gaz, on se focalise d'abord sur l'exploitation du gaz méthane. Pour moi, je sais qu'il y a beaucoup de questions. Comment dans l'émission, on veut parler de pourquoi, les raisons qui poussent la RDC à ne pas exploiter le gaz du lac Kivu, c'est une question que tout le monde se pose. Nous, par exemple, qui sommes ici à Goma, nous nous disons, mais comment? Nous voyons la plateforme qui a Gisenyi. Vous vous levez même ce soir, vous pouvez vous lever de chez vous et vous voyez cette plateforme qui a Gisenyi, qui est presque à la frontière avec la RDC. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe au juste en République démocratique du Congo? Il y a une main que Dieu nous a donnée ce gaz méthane que nous pouvons exploiter pour faire face à beaucoup de problèmes que nous avons, mais ce n'est pas exploité. Pourquoi on n'exploite pas cela? Je crois qu'il y a un sérieux problème. Et ce problème, moi j'appelle ce problème le manque d'engagement politique, engagement de la part du gouvernement congolais. Il n'y a pas d'engagement politique, il n'y a pas d'engagement financier, et on est là, on reste en train de croiser les bras, et, alors que le gaz est là, on peut l'exploiter pour faire face à des problèmes d'électrification, à des problèmes, beaucoup de problèmes, et aussi, il ne faut pas oublier que ces gaz que nous avons dans le lac Kivu, entre autres les dioxyde de carbone, ça fait aussi un danger pour notre population, parce qu'il est superficiel à quelques mètres. Il y a même certains chercheurs qui ont dit que dans ce lac Kivu, le gaz, par exemple, le dioxyde de carbone, il est à seulement à 13 mètres. Et pourtant, nous avons le volcan Nyamulagira qui peut facilement arriver par là s'il y a éruption. Il y a le volcan Nyiragongo qui est là, qui peut arriver au lac s'il y a éruption. Et nous, on est là. Il y a d'un côté ce danger qui est là, il risque d'explosion. De l'autre côté, il y a cette opportunité où nous pouvons exploiter, mais le gouvernement n'a pas cette volonté. Nous le constatons et nous regrettons cela. Et pourtant, de l'autre côté, on exploite, on est en train d'extraire le gaz. C'est vraiment malheureux ce que nous sommes en train de constater. Le peuple congolais, surtout nous qui sommes nord-kivusiens et qui sommes à côté du Rwanda ici, nous nous disons, mais qu'est-ce qui arrive chez nous? Parce que c'est un droit de comparaison. On compare, on se dit, mais à côté ici, on exploite ce gaz. Et nous, qu'est-ce qui se passe vraiment chez nous? Voilà autant de problèmes. Moi, je crois qu'il y a vraiment ce manque d'engagement de la part du gouvernement congolais.
François Zekouillé, expert en environnement, bonsoir.
Bonsoir, mon cher ami Irung, Alain.
Selon les experts, les réserves en gaz naturel du lac Kivu sont évaluées à environ 300 millions de mètres cubes, ce qui pourrait garantir de l'énergie à au moins 2 millions de riverains du lac sur au moins 50 ans. Jusque-là, l'honorable Kazungu l'a aussi dit, le Rwanda a commencé à exploiter cette énergie de son côté. Il parle, lui, du manque d'engagement politique et financier. Est-ce parce qu'il n'y a pas eu des études pour approfondir cette question ou c'est simplement une question de volonté?
Alors, je dois corriger votre intervention. Dans les lacs Kivu, 50 milliards de mètres cubes de gaz méthane et 4 fois plus de COD, donc de dioxyde de carbone. Donc il y a 200 milliards de COD dans les lacs Kivu. Mais la question qui se pose en réalité dans la République du Congo n'est pas forcément une question de corruption. Vous savez très bien que le pays à l'est de ses frontières a traversé des guerres et que la guerre qui a survenu à l'est du pays n'a pas permis une exploitation économiquement rentable de ces gaz. Vous devez savoir que pour un investissement comme celui-là, on a besoin des capitaux, des financements extérieurs. Et aucun partenaire extérieur ou une banque étrangère ne peut financer un projet dans une partie où il y a l'industrie. Donc, c'est le premier élément qui a fait qu'il y a du retard du côté République démocratique du Congo dans l'exploitation du gaz méthane. Mais l'autre aspect qui gêne, c'est un aspect effectivement d'études. L'exploitation faite par le Rwanda aujourd'hui, même si beaucoup de gens ne le savent pas, pose problème. L'étude faite par le professeur Klaus montre que pour bien exploiter les gaz méthane dans le lac Kivu, il faut qu'il y ait plusieurs petites plateformes pour éviter d'injecter des grandes quantités, rééjecter bien évidemment des grandes quantités de gaz carbonique ou de CO2 et de l'eau dans le lac Kivu qui peuvent créer des turbulences dans les lacs et causer des dommages pour la navigation sur le Kivu et même créer l'explosion. Donc la méthode utilisée par le Rwanda aujourd'hui n'est pas la meilleure dans l'exploitation et peut engendrer des problèmes. Le Congo se donne du temps pour mener des études plus crédibles pour que, au moment de l'extraction du gaz méthane, on puisse s'assurer que la réinjection des carbone et ne puisse pas créer des turbulences de lac. Mais évidemment, il est clair qu'il y a des dangers liés à la présence du gaz méthane parce que, une fois le gaz méthane exploité, il y a moins de possibilités que les dioxydes de carbone plus près des dangers. Mais à l'état actuel des choses, les lacs Kivu sont à 1400 mètres d'altitude. S'il y a une explosion qui se passe dans les lacs Kivu, toute la plaine de Ruzizi, tous les sites Kivu, pratiquement, peut avoir des impacts négatifs au-delà de ce qu'on a connu dans le lac Nyos au Cameroun. Donc, le danger, il est permanent. Il faudrait absolument que les parties se mettent d'accord pour une exploitation de gaz méthane qui soit judicieuse pour des usages divers. Parce qu'aujourd'hui, le seul usage que nous sommes en train de considérer, c'est l'usage électrique. Mais nous savons que les gaz méthane peuvent être utilisés pour produire de l'urée pour l'agriculture. Nous savons que nous avons besoin des engrais pour la production agricole. Ça peut être utilisé aussi comme combustible pour la cimenterie. Nous en avons et au Congo et on envisage d'en avoir au Burundi, au Rwanda. Donc les usages sont multiples et même comme combustible pour les véhicules. On peut utiliser l'essence naturelle, on peut utiliser l'essence synthétique produite par le gaz méthane. Mais nous estimons que le processus est en cours pour que, avec la participation à l'est du pays, que le Congo puisse avoir assez de moyens pour pouvoir commencer son exploitation. Et nous tirons l'attention des gouvernants et de la population pour que l'exploitation soit faite par des petites unités, de sorte que la réinjection et des dioxyde de carbone et de l'eau dans le lac Kivu ne puisse pas être un danger plutôt qu'un bénéfice pour les populations et pour les deux parties qui doivent exploiter, et même les trois, parce qu'en fait, on a créé la société gaz qui est JGT qui devait exploiter pour les comptes de CPGL, les gaz méthane dans le lac Kivu, au profit des trois pays de la CPGL. Et l'usage qui était à l'époque prévu, c'était l'usage en termes de l'urée, en termes d'essence synthétique et en termes de combustible pour les cimenteries. Et on n'avait pas à l'époque prévu l'usage électrique qui est privilégié par le Rwanda parce qu'ils ont un déficit en termes de barrages électriques, hydroélectriques, ce qui ne nous concerne pas exactement à ce jour au niveau du Kivu.
Dario Tedesco, vous avez suivi l'honorable Simon Kazungu pour qui c'est le manque d'engagement politique qui serait à la base de cette léthargie du côté de la RDC. François Nzekouye parle de l'insécurité qui a sévi dans cette partie du pays. Quelles sont d'après vous les causes qui font que la RDC n'exploite pas encore ce gaz?
Alors, je ne me permettrai jamais de rentrer dans les questions politiques congolaises parce que je ne le suis pas. Mais effectivement, il y a un peu de retard qui est dû sûrement à peut-être à la non-connaissance correcte de ce qui se passe ici et peut-être aussi à la guerre. Mais il faut dire la vérité, pour une fois, ce retard n'est pas nocif à mon avis. Parce qu'effectivement, le Rwanda a commencé, mais ce qu'il a été carrément expliqué pendant la conférence, c'est qu'il y a deux plateformes, pas seulement une, il y en a deux, et les deux ont deux méthodes qui, à mon avis, ne sont pas les bons. Ça a été carrément dit et expliqué par pas mal de chercheurs. Donc, c'est vrai qu'on a du retard, mais je suis tout à fait d'accord avec la personne qui a parlé juste avant moi, et que ce retard, peut-être, c'est plutôt bien une bonne chose. Donc, il faut d'abord trouver une méthode fiable d'extraction du gaz, et ça, c'est la chose importante, mais pas seulement fiable. Surtout, les méthodes qu'il y a maintenant, ils sont pas rentables. Ça veut dire, on exploite peu de gaz par rapport à celui-là qu'on amène en surface. Ça veut dire qu'on perd beaucoup de méthane. Et ça, c'est très mauvais. Deuxième chose, il n'y a pas de danger pour l'instant au niveau des possibles explosions de gaz. Soyons clairs, c'est moi un des experts sur ça et donc je voudrais bien être clair sur ça, dans ces domaines. Autre chose, les vrais problèmes, les deuxièmes vrais problèmes, parce que moi celui-là relié à la rentabilité, c'est celui-là qu'on risque d'injecter les CO2, donc le dioxyde de carbone, dans une zone, dans ce qu'on appelle la biozone. Ça veut dire on tuera toute la vie dans le lac. Et ça, c'est un véritable problème. C'est pour cela que la majorité des chercheurs préfèrent réinjecter le CO2 à une profondeur assez importante. Autrement, on risque effectivement de le faire monter. Donc, à mon avis, le Congo, ce qu'il doit faire, c'est attendre encore un petit peu, être sûr d'abord sur les méthodes à utiliser, d'extraction à utiliser, et avoir des compagnies fiables. Autre chose, ils étaient déjà à Gizen, il y a beaucoup de la Banque mondiale, il y a beaucoup de donateurs qui sont prêts à intervenir. Maintenant, la région, elle est je dirais, il n'y a pas de guerre dans les environs. Donc, je dirais plutôt qu'il faudrait intervenir maintenant. Donc, approcher ce qu'on appelle les stakeholders, les donateurs, et essayer de leur présenter un projet convaincant. Autre chose, on a parlé aussi d'explosion à l'intérieur, possible explosion et danger à l'intérieur du lac, le volcan Nyamulagir. Il y a eu beaucoup d'éruptions du volcan Nyamulagir. Il y a beaucoup d'éruptions du volcan Miragong qui sont terminées dans le lac. Il y en a certains qui sont terminés là pendant 3 ans, il n'y en a jamais eu d'explosion. Donc, faisons attention à mélanger les poires avec les pommes. Parlons du gaz méthane, parlons de l'extraction et des avantages, mais ne parlons pas de possibles explosions et donc il faut dégazer le lac. Ça, c'est quelque chose qu'il vaut mieux pas en parler. C'est, de toute façon, c'est montré par des scientifiques que les gens qui prétendent vouloir dire que le lac est en danger, ça c'est parce que peut-être ils ont des intérêts à vouloir le dégazer. Et l'intérêt plus simple, c'est d'avoir une entreprise eux-mêmes. Donc, parlons carrément, l'important c'est que les gouvernements congolais puissent avoir une méthode fiable, et je pense qu'il y a eu finalement quelqu'un qui a présenté de bons résultats à Gizeng, mais c'est pas les deux plateformes qui sont maintenant sur le lac. Donc il faut chercher quelque chose d'alternatif. Et à mon avis, bientôt, il y aura cette possibilité.
Alors prenons cette réaction qui nous vient de Goma au Nord Kivu pour vous, Dario Tedesco.
Chantal Saïda, depuis Goma au Nord Kivu. Nous, à Goma, nous voyons un grand danger du fait de la non-exploitation de ces gaz du lac Kivu jusqu'à ce jour. Et nous craignons que la catastrophe qui s'était produite au Cameroun il y a belle lurette ne se reproduise ici, où vies humaines, animaux et biens étaient réduits en cendres. Surtout que le Rwanda commence déjà à exploiter le sien. Et nous, qu'est-ce qui justifie cette léthargie pour la RDC?
Voilà, donc Chantal Saïda de Goma fait allusion à la catastrophe du lac Nyos au Cameroun qui a eu lieu le 21 août 1986 avec plus de 1500 morts. Dario Tedesco, vous avez tout à l'heure dit qu'il n'y avait pas de danger. Est-ce que vous pouvez expliquer à Chantal pourquoi vous insistez sur cet aspect?
Mais bien sûr. Mais Chantal a posé une bonne question d'abord, et ça c'est la chose la plus importante, c'est que la société civile, donc les citoyens puissent s'exprimer. Et il n'y a pas de danger pour deux raisons. La première, le lac Nyos était tout petit, mais tout petit, 1000 fois plus petit que le lac Kivu, et il n'était pas en équilibre autant que le lac Kivu. Tous les scientifiques sont d'accord que pour avoir une explosion de gaz, il faudrait attendre des dizaines de milliers d'années, mais vraiment beaucoup de temps. Notre échelle, donc, on est dehors de cette échelle. Donc, il n'y a pas ce danger. Et surtout, il faut dire que la quantité de gaz qu'il y avait à l'intérieur, le volume de gaz qu'il y avait à l'intérieur du lac Kivu, qui sont à l'intérieur du lac Kivu, sont beaucoup plus faibles de ce qu'il y avait à l'intérieur du lac Nyos. Je voudrais quand même revenir sur une petite chose qui a été dit au niveau de ce qui vous et de la possibilité que s'il y avait une explosion, le gaz aurait tué toute la partie basse, donc la partie de la Ruzizi, Bukavu. Non, ce n'est pas exactement comme ça. Tout d'abord, parce que le vent souffle est-ouest, donc le gaz irait vers la partie ouest du Congo, et pas par la partie sud. Et autre chose, parce que le bassin de Bukavu, heureusement, ne contient pas de gaz. Donc la ville de Bukavu, pour une des raisons assez heureuses, serait complètement dehors du nuage de gaz. Par contre, tout ce qui est à l'ouest, ben alors là, oui, là, il y aurait des problèmes. Mais, je répète, ce danger n'existe pas pour l'instant. Il n'est pas là. Donc, il y a pas mal d'études scientifiques qui ont montré qu'heureusement, la quantité de gaz et la stratification, parce que ce gaz est stratifié à l'intérieur de l'arc, ne permet pas au gaz de sortir.
Honorable Simon Kazungu, vous venez de suivre Dario Tedesco, qui vient pratiquement de donner plus de précisions quant au danger, hein, à la notion de danger, entre guillemets, que représentait le gaz méthane du lac Kivu. Êtes-vous satisfait? Êtes-vous apaisé?
Monsieur le journaliste, vous devez savoir que déjà avec ce que celui qui a parlé après moi, j'ai difficile à retenir son nom. Et,
François Nzeki.
Voilà, avec François et avec l'autre de
Dario.
là, il y a un peu de contradiction. Et nous nous disons ceci. C'est ça ce que la population Nord-Kivu se pose cette question. Nord-Kivu, que ce soit aussi au Sud-Kivu. Pourquoi beaucoup d'experts arrivent? Je me souviens qu'à Goma, il est passé un expert, un Français, Michel Rabat, qui est arrivé. Il a bénéficié quand même de quelques moyens du gouvernement provincial. Il y a beaucoup d'études qui se mènent. Et on disparaît comme ça, avec des idées. Ma crainte pour moi étant élu du peuple, et la crainte de la population à Goma, que ce soit aussi à Bukavu, c'est que nous risquons de rester à ce niveau de discours, à ce niveau de débats, à ce niveau de séminaires, à ce niveau d'ateliers, et ne pas aller de l'avant, et ne pas voir ce qui se passe ou l'exploitation, parce que c'est ça ce qui est important. Vous n'allez pas oublier que notre parc, le parc national des Virunga, il est sérieusement menacé par l'exploitation du charbon, de bois. On exploite du charbon. Les FDLR étaient en train d'exploiter là-bas. À un certain moment, un sac de Makala ici coûtait $40 par sac. Donc vous voyez que c'est ça la réalité que nous sommes en train de vivre. Une simple question que la population se pose, c'est que nous avons quand même quelque chose qui peut nous aider. C'est l'exploitation du gaz méthane que nous avons dans notre lac. Une manne, je le répète encore, une manne que Dieu nous a donnée. Pourquoi ne l'exploite pas et nous continuons à aller dans le parc, à aller dans la forêt, couper le bois et qui est aussi un autre danger. C'est ça la plus grande question. Beaucoup d'explications scientifiques, c'est très très bien. Mais aussi, nous ne devons pas oublier que le gaz n'a pas de frontières. Le gaz qu'on exploite au Rwanda, qu'il soit exploité au Congo, il n'a pas de frontières. Ça, c'est qu'en exploitant au Rwanda, on ne dira pas que ça c'est un gaz qui est congolais et ça c'est un autre gaz qui est rwandais. Donc c'est ça la plus grande question que la population se pose. C'est bien de donner beaucoup d'explications techniques, beaucoup d'explications scientifiques, mais il y a des questions qui sont vraiment pratiques et pragmatiques. C'est de dire, nous avons des problèmes d'énergie électrique. Nous avons des problèmes. Nous ne savons pas accéder au bois de chauffage. Qu'est-ce que nous attendons pour que notre population bénéficie de ces gaz-là? Voilà autant de questions que la population se pose, et pourtant on sait que l'ex-URSS, donc les pays de l'Est de l'Europe, ce sont des pays qui deviennent de plus en plus riches parce qu'ils exploitent les gaz qu'ils ont. Voilà ma préoccupation, monsieur le journaliste.
Mais honorable Kazungu, vous avez suivi tout à l'heure François Nzekouye et Dario Tedesco qui ont pratiquement dit que la RDC n'était pas tellement en retard, mais il suffisait juste de trouver les bonnes méthodes d'exploitation.
Oui, mais c'est une bonne chose. Mais jusqu'à quand on va trouver ces bonnes méthodes d'exploitation? Qu'est-ce qui est fait maintenant, aujourd'hui? Qu'est-ce que le gouvernement congolais peut nous dire qui est déjà fait pour dire, écoutez, c'est ça notre calendrier. Dans un mois, nous allons faire ça. Dans deux ans, nous allons faire ça. Dans six mois, nous allons faire ça. C'est ça la plus grande question, monsieur le journaliste. Il faut que le gouvernement nous présente quelque chose de bien précis, qu'on ne puisse pas commencer à parler. Et on n'a pas un calendrier, on n'a pas quelque chose de palpable, parce que nous sommes, par exemple, redevables devant le peuple. Si la population nous pose cette question et que nous disons, ok, c'était bien qu'on puisse un peu attendre ceux qui ont commencé avant, il y a beaucoup d'erreurs, ainsi de suite, mais on va nous poser cette question de savoir, mais pratiquement, qu'est-ce que vous nous dites? C'est après deux mois qu'on va faire quoi? Et quel est le calendrier? Qu'est-ce qu'on va faire après six mois, après cinq mois, après deux ans, après cinq ans? C'est ça la plus grande question, monsieur.
François Nzekouye, la multiplicité des expertises, au final, se crée la confusion et dans la population, dans les décideurs. Qu'est-ce que vous répondez à l'honorable Simon Kazungu?
Bon, je crois que, comme l'a dit M. Gedeschi, l'étude actuelle montre qu'il est possible de produire des gaz méthane avec moins d'inconvénients, plus de rentabilité à ce jour. Ce n'est pas que nous allons attendre davantage, mais le problème, c'est que pour monter de nouvelles plateformes, il faudra de l'argent. Et vous savez, la problématique au Congo, en termes de multiplicité des besoins, on n'arrive pas toujours à une bonne affectation des recettes. Et donc, nous disons que les besoins, comme l'a dit l'honorable Kizungu, je crois, les besoins existent au Nord-Kivu. Vous savez que
le ministre des Mines avait décrété qu'il faut transformer les artilleries, les cordons sur place, et bien sûr, énorme. Avec les capacités des
François Zécouillé, nous avons quelques problèmes avec la qualité de votre ligne. S'il est possible de vous déplacer un tout petit peu pour qu'elle puisse s'améliorer.
Tout à fait, j'ai bougé. Donc, je disais que les besoins énergétiques au Nord Kivu est réel, tant en termes d'industrie minière qu'en termes de consommation domestique. La ville de Goma n'est pas une ville éclairée. Elle est dans les axes principaux de la ville, mais tous les quartiers ne sont pas éclairés. On ne peut pas aujourd'hui transformer et la cachemérite et les coltans produits au Nord-Kivu. Donc le besoin de transformer les gaz méthane en électricité est réel au Kivu. Et comme l'a dit aujourd'hui, il y a plus de volontaires qui sont prêts à pouvoir financer ces projets et nous espérons que dans les plus brefs délais, nous allons y arriver. Mais simplement, nous disons que la méthode qui a été utilisée aujourd'hui par nos prédécesseurs dans l'exploitation du gaz méthane, en l'occurrence le Rwanda, n'était pas bonne et que nous espérons que la méthodologie qui sera utilisée pour exploiter le gaz méthane dans les jours à venir pourra intégrer cette problématique pour éviter effectivement qu'il y ait une turbulence. Même si je ne suis pas à 100% d'accord avec M. Tedeschi en termes des dangers qui concernent évidemment des endroits bien précis où les conséquences peuvent arriver, il est très clair que la hauteur là qui vous est à 1400 mètres et les autres zones à 600 mètres, le danger va aller vers le sud, que ce soit au sud-est ou au sud-ouest, c'est une question liée au vent. Les dangers restent quand même si ce n'est pas un danger imminent. Mais la question que nous nous posons aujourd'hui, c'est en termes, pourquoi aujourd'hui on ne l'exploite pas? Et nous venons de vous répondre à cette question. La première raison, c'est un problème de moyens. La deuxième raison, c'est un problème de sécurité. Dieu merci, nous sommes en train d'y arriver. La sécurité est en train de revenir, même s'il reste des postes de licence. Moi, je vous parle à la partie de Rutshuru aujourd'hui, où le groupement de Dinga reste insécurisé. Il y a des opérations et vous avez sans doute mentionné qu'il y a une semaine ou deux, il y a des agents de qui ont été kidnappés de ce côté-là. Merci. Donc la sécurité n'est pas à 100% dans les environs du Goma où l'exploitation doit se faire, mais nous espérons quand même qu'il y a un degré qui est tolérable, gérable pour que l'exploitation du gaz méthane s'efface et que les besoins économiques pour lesquels on doit l'exploiter puissent effectivement remplir les besoins des populations et de l'industrie.
Merci.
C'est ça, en fait, la problématique.
Merci. Dario Tedesco, prénom cette réaction qui nous vient de Kinshasa pour vous.
José Bakari, à Kinshasa. Notre pays a un problème de déforestation. Nous le savons tous. Et l'exploitation de ces gaz est une opportunité pour notre pays. Parce que ces gaz peuvent être utilisés pour l'usage domestique. Non pas seulement pour produire l'énergie électrique. Lorsqu'on exploite les gaz, ça va permettre de limiter la déforestation. Donc je pense que si on exploite ces gaz maintenant dans ce pays, on va réduire la déforestation dans ce pays.
Réaction Dario Tedesco.
Ben, c'est bien sûr positif, parce que, il l'a dit déjà l'honorable Sarango, il faut absolument utiliser une partie du gaz méthane pour, comme à la place du bois de réchauffement, donc du macala. Ça coûte beaucoup moins cher.
Dario? Voilà, nous avons quelques soucis avec la ligne de Dario Tedesco. La réalisation va tenter de le retrouver. Honorable Simon Kazungu, il y a beaucoup d'auditeurs qui nous ont écrit. Jonathan Itou de Benio au Nord Kivu. Grâce à l'exploitation de ce gaz, aujourd'hui, le Rwanda ne connaît pas de délestage ni coupure de courant suite à la bonne gestion de l'énergie provenant du lac Kivu. Architecte Patrick Moutila de Kananga au Kasai Occidental. La ville de Goma connaît un problème sérieux d'électricité, et cela est d'ailleurs à la base de l'insécurité dans la ville. Pourquoi le gouvernement n'utilise pas le gaz pour produire du courant à Goma comme le font nos voisins? Honorable Diane Paulin de Kisangani en province orientale, l'attitude du gouvernement congolais me surprend toujours lorsqu'il s'agit de l'exploitation du pétrole et du gaz avec nos voisins angolais et rwandais. Réaction honorable Kazungu.
Content de ce que l'honorable de la province orientale vient de dire. Parce qu'il y a aussi un autre problème qu'on ne doit pas oublier, c'est un problème d'une peur, une certaine peur d'une guerre économique. Parce que ça, on ne doit pas se le voiler. Nous savons que c'est une richesse qui est commune entre le Rwanda et le Congo. Et nous sentons aussi qu'il y a cette peur-là, où on se dit, ben, écoutez, nous allons, comment nous allons exploiter, et ainsi de suite. Mais je crois que ça peut se faire, ça peut se résoudre facilement par notre diplomatie. Nous avons besoin d'une diplomatie, d'une forte diplomatie qui peut bien baliser les choses à ce niveau. Il y a un besoin réel, le besoin est réel. Au moment où je suis en train de vous parler, je suis un honorable, mais c'est mon groupe électrogène qui est en marche maintenant pour avoir de l'électricité, de l'énergie. Bon, ben, que dites-vous de cette population, de cette personne qui est à Majengo, qui est à Mugunga, qui n'a pas d'électricité? Il voit de l'autre côté, comme je l'ai dit dans l'introduction de l'émission, il voit de l'autre côté qu'il y a de la lumière, il voit qu'il y a une exploitation de ces gaz. C'est ça le plus grand problème. Quant à dire qu'au Rwanda, l'exploitation n'est pas bonne, il n'y a pas une bonne méthode, c'est bien de le dire, mais s'il y a des conséquences au Rwanda, mais Gisenyi et Goma, moi je considère que c'est une même ville, il y a des gens qui sont il y a des gens qui sont à un pas de Gisenyi. S'il y a un problème de l'autre côté, c'est que le même problème va se ressentir chez nous. Je crois et j'ai cette pleine conviction que le gouvernement doit se réveiller. On doit se réveiller et on doit faire que cette population nord-kivusienne, la population congolaise, puisse bénéficier de ce qu'elle a comme richesse, de ce que Dieu nous a donné comme richesse. Sinon, la population risque de se décourager et dire, ben, écoutez, nous ne comprenons pas ce qui se passe avec notre pays. Pourquoi c'est nous toujours qui serons les derniers, c'est nous toujours qui allons traîner les pas? C'est ça la plus grande question. Et je crois qu'il y a aussi cette peur d'une certaine guerre économique où on doit attendre ce que l'autre va faire. Je le répète encore, le gaz n'a pas de frontières, il va aller quand on l'exploite. Voilà.
Dario Tedesco, êtes-vous de nouveau en ligne?
Oui, je suis là.
Voilà. Alors, Dario, quelles pourraient être les autres ressources que l'on retrouve dans le lac Kivu, à part le gaz méthane et les dioxydes de carbone?
Pour les dioxydes de carbone, ce n'est pas tellement une ressource, plutôt un problème. C'est pour cela que les différentes plateformes qu'il y a dans le lac n'arrivent pas à exploiter correctement le gaz. C'est à cause du CO2. Disons que le CO2 pose aussi un problème vis-à-vis de la vie dans le lac. En fait, il y a de la vie du lac, dans le lac jusqu'à 70 mètres, 80 mètres. Après, il n'y a plus rien parce qu'il y a beaucoup de CO2. Par contre, le CO2, le méthane peut être utilisé comme gaz pour réchauffement, donc dans les bonbonnes, et donc éviter les déboisements. Maintenant, le parc ici n'existe presque plus à côté de Goma, une fois, et c'est le parc le plus vieux d'Afrique, le parc de Virunga. Mais autre chose, j'ai entendu parler tout à l'heure, et je suis tout à fait d'accord, n'oublions pas, et c'est vrai qu'ils ont une personne désespère d'une société pétrolière Kiwanja, je pense, je ne me souviens plus, mais il faut aussi faire attention de ne pas essayer d'exploiter le pétrole dans le parc. Le parc, c'est vraiment le seul poumon que cette partie d'Afrique encore a, cette partie du Congo a. C'est peut-être le futur pour les enfants du Congo. Si on commence à travailler dans le parc, ça veut dire tuer le parc, il n'y aura plus rien après.
Voilà.
Ça veut dire on aura peut-être de l'énergie, mais on n'aura plus de quoi vivre.
Ah oui, Dario Tedesco, l'exploitation pétrolière dans le parc a fait l'objet d'une émission précédente, mais aujourd'hui nous parlons plutôt de l'exploitation du gaz du lac Kivu. Pour aborder directement la deuxième partie, que faut-il pour que la RDC tire réellement profit de l'exploitation de ce gaz? En début d'émission, Dario, vous disiez déjà qu'il y a beaucoup de donateurs qui sont prêts, mais qu'il faut trouver la bonne méthode. Cela suffit-il pour que la RDC en tire profit?
À mon avis, oui. Les donateurs étaient à Gisenyi, donc on les a vus. Tout le monde les a vus. Les deux délégations, celle congolaise et celle rwandaise, ont eu la possibilité de les approcher.
Donc, il faut tout simplement, à mon avis, la bonne méthode, et sur ça, il faut le faire vite. Parce que, de toute façon, c'est vrai aussi que le gaz n'a pas de frontières. Si on commence à extraire du gaz d'un côté, c'est aussi de l'autre qu'on va le perdre. Mais surtout, il faut trouver les moyens de s'approcher de façon correcte les donateurs. La Banque mondiale, entre autres, elle est à Kinshasa, on peut l'approcher. Un projet cohérent, correct, transparent, à mon avis, ça marchera tout de suite. Parce que si on voit les enjeux, et surtout les enjeux au niveau aussi de ne pas perdre de la forêt, donc du parc, à mon avis, ça marche tout de suite. Il faut avoir évidemment un projet. Et ça, c'est l'autorité politique qui est en jeu.
Il y a cet auditeur à Nouvelle de Lubumbashi au Katanga qui dit « La RDC a-t-elle à ce jour diligenté une expertise pour négocier en connaissance de cause les modalités d'exploitation du gaz, étant donné que c'est une ressource commune d'Ario Tedesco ?»
Je crois que peut-être il faudrait, même de l'autre côté, ils n'ont pas vraiment une expertise directe, parce que les deux plateformes qu'il y a dans les lacs, c'est les deux compagnies étrangères. Donc je crois qu'il faut avoir des étrangers qui connaissent, qui sont capables, et il y en a beaucoup. Il y a d'ailleurs un comité sur le lac Kivu au niveau de l'exploitation du gaz. À mon avis, il faut faire référence à ce comité-là. Une fois qu'on aurait fait référence à celui-là, je crois que vous aurez la bonne méthode dessus.
François Ndekouye, Dieudonné Biabondo, étudiant à l'université de Lubumbashi au Katanga, je trouve que le gouvernement donne une grande importance au secteur minier, mais semble négliger l'exploitation du gaz méthane du lac Kivu que le Rwanda exploite déjà.
Je crois que le gouvernement n'a pas encore. Il savait que la quantité pouvait être tirée en termes d'électricité, je veux dire, parce que c'est ça que je veux dire. Même si on peut aussi parler de gestion de bonnes formes de gaz.
Sans écouiller.
La condition, oui.
La qualité de votre ligne s'est vraiment détériorée. Essayez de bouger encore un tout petit peu.
Voilà. Bouger encore un peu.
Voilà. Là, c'est nettement amélioré.
On ne peut pas considérer qu'une étape fondée sur des terres avec les choses. La quantité de gaz méthane qui peut être exploité dans les lacs à Kivu est de 200 à ça. Et vous savez qu'un état dressé produit plusieurs centaines de milliers avec les barrages d'Inga et d'autres barrages. Mais nous, on doit utiliser les sources de gaz méthane, bien évidemment que la plupart de la population utilise les sources du bois. C'est un fait, il faut que l'on puisse avoir de l'électricité pour produire du bois pour éviter des atmosphères dans des effets de serre.
François Zécouillet.
Pour les besoins des industries, oui.
On a décidément beaucoup de mal à vous capter. La réalisation va tenter d'arranger ça avec vous. Honorable Simon Kazungu, que faut-il pour que la RDC tire réellement profit de l'exploitation du gaz du lac Kivu?
Bien, que faut-il? Je crois que la première chose qu'il faut faire, c'est d'éviter ces contradictions entre les chercheurs et les autres. Donc, il faut faire des études minutieuses où on peut se mettre d'accord vraiment sur certaines histoires. Donc, je sentais que même au niveau de cette émission, déjà, il y a certaines contradictions. Là, la première chose, c'est une étude minutieuse. On doit faire une bonne étude par rapport à l'exploitation de ces gaz. La deuxième chose, c'est que la République démocratique du Congo ou le gouvernement congolais doit quitter cette sorte de distraction, cette sorte de léthargie qu'il y a et prendre un engagement sérieux pour une exploitation sérieuse aussi. Voilà les deux choses que moi je voulais dire. Donc il faut vraiment une étude minutieuse. Il faut aussi quitter une sorte de distraction qu'on a et cette sorte de léthargie qu'on a et prendre un engagement sérieux pour l'exploitation du gaz de la Kivu.
François Zécouillé, est-ce que vous êtes de nouveau en ligne? Voilà, nous avons beaucoup de problèmes avec la ligne de François Zécouillé. Dario Tedesco, des bonnes études, c'est pour combien de temps encore?
Pardon?
Il faut des bonnes études, des bonnes recherches. Ça prendra encore combien de temps, vous qui êtes expert?
selon ce qu'on a montré à Guizani, les études sont là. Il faudrait seulement les mettre en pratique. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être fait très rapidement.
Donc, très rapidement, sans une échéance précise.
Tout de suite, ça veut dire. Très rapidement, pour moi, ça veut dire tout de suite. Là, je crois qu'il y a certains bailleurs qui ont été très intéressés par certaines études qui ont été montrées. D'ailleurs, il s'agit vraiment de faire au niveau mondial. Et donc, je pense que la République démocratique du Congo pourrait faire exactement la même chose et aller vers ces gens-là. Il faut faire attention, hein. Je répète. Je crois que peut-être il y a eu déjà des choix à faire. Surtout, n'oublions pas qu'il y a des concessions sur le lac. Donc, chaque partie, donc le Rwanda d'un côté et la République démocratique du Congo, ont donné des concessions à certaines entreprises. Il faut voir la méthode qu'utiliseront ces entreprises. Ça aussi, c'est le problème.
Dario, tout à l'heure, François Zekouy et vous-même avez soutenu que la méthode utilisée par le Rwanda n'était pas la bonne. Y a-t-il lieu de craindre certaines répercussions néfastes sur la biodiversité en RDC?
Non, ça c'est une possibilité, pas pour nous, c'est-à-dire pas pour les populations riveraines, mais plutôt pour la où ils vont réinjecter le CO2. Mais l'autre problème, je répète, le problème le plus important qui est carrément émergé dans cette conférence, c'est que la quantité de CH4 qui est exploitée est trop petite par rapport à la quantité de CH4 qu'on perd.
Merci.
Là, c'est une perte de la ressource, ce qui est encore pire.
François Zekouyé, est-ce que vous nous suivez?
Parfaitement, Alain Hérong.
Voilà, nous tendons pratiquement vers la fin de l'émission. L'honorable Kazungu a évoqué des craintes d'une guerre économique entre la RDC et le Rwanda, comme c'est le cas entre la RDC et l'Angola, en ce qui concerne le pétrole.
Non, ça n'a pas de raison d'exister. En fait, comme je voulais expliquer, ce que vous avez entendu, le Rwanda a un déficit énergétique et a très peu de barrages hydroélectriques dans son pays. Et c'est pour cela que le Rwanda n'a pas voulu ni pu attendre. C'était un besoin énorme pour lui. Nous, en tant que pays, je veux dire, et non pas en tant que province, le Nord-Kivu a des problèmes énergétiques. Mais la ressource est aussi une ressource nationale. Et quand vous gérez un pays, vous regardez l'ensemble du pays. Et donc, ayant les barrages de Ruzizi, qui peut produire assez d'électricité du fait on a fourni au Rwanda et au Burundi par les barrages de Ruzizi. Donc le Rwanda a essayé d'en exploiter une toute petite quantité qui ne peut même pas couvrir les besoins énergétiques du Rwanda. Donc c'était une plateforme expérimentale et nous estimons que les erreurs du Rwanda vont nous servir pour pouvoir monter des plateformes qui puissent respecter les normes aujourd'hui et permettre à ce que les deux pays aient en leur partie. Et pour ce qui concerne la RDC, la partie Est, et le Rwanda, la partie Ouest, notamment à Gisenyi et à Goma, essentiellement, de pouvoir avoir un peu plus d'énergie. Mais les gaz méthane, on ne peut pas dire aujourd'hui que l'exploiter pourra permettre d'avoir une quantité énergétique qui soit comparable au barrage de Ruzizi.
Merci François Zekouyé, expert en environnement. Honorable Simon Kazungu, un mot pour conclure également.
Un mot pour conclure, peut-être deux, mais le barrage de Ruzizi, c'est celui que nous utilisons à Goma et à Bukavu. Nous constatons qu'il y a des délestages chaque jour, ça c'est un problème. Mais un mot de la fin, c'est de dire que le Congo, c'est un géant. Moi, je considère le Congo comme un géant, et un géant qui dort et il doit se réveiller. Je crois qu'il doit se réveiller, le gouvernement doit se réveiller dans ses responsabilités, de dire comme M. Dario a dit, qu'il y a une étude qui est complète qui est là, et il doit saisir la balle au bon pour dire écoutez, nous prenons ça, et nous allons exploiter les gaz.
Merci. Dario Tedesco, votre conclusion également.
Ben, je pense qu'il faut agir vite, il faut être transparent, il faut donner la bonne information à la population, c'est pour ça que la population inquiète aussi. Donc c'est une question d'information, de suivi et d'un gouvernement qui a des idées claires et qui agit vite.
Merci, merci messieurs d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour aujourd'hui. Retrouvez cette émission sur radiocapi.net ou réécoutez-la en rediffusion à 4h15, heure de Kinshasa. Au revoir, à demain.
Okati, okati.